Salut, salut! Voici un nouvel épisode de Talaref! Bienvenue! J'ai commencé en disant salut, salut!
Quel ringard!
Il faut absolument que je sauve ce générique! Je sais, cheveux au vent, voix suave et.
Bienvenue à toi dans Talaref!
Voilà, là on est bien! Bon épisode.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Talaref, une nouvelle fois enregistré dans le bar Le Wynwood à la rue d'Ancet 17. Et je reçois aujourd'hui un humoriste du Grand Genève.
Grand Genève, effectivement, le Grand Genève.
Yacine Jomat.
Voilà, c'est moi, merci de me recevoir.
Comment ça va?
Bah écoute, ça va très bien, je suis très content d'être là.
Pardon, mais...
T'as déjà envie de rigoler.
J'ai envie de rigoler parce que t'as pris une voix interview.
Oui, oui, tout à fait. Ouais, c'est la voix interview.
C'est pas la vraie
un peu
voix,
plus
voilà, sérieux.
Un peu plus sérieuse, elle est carrée. Elle est travaillée pour les interviews, surtout les interviews de Benjamin Delaloy qui sont bien connus pour être très rigoureux. Donc voilà.
Cali de fou.
Ouais.
Bah, merci d'avoir accepté mon invitation.
Avec plaisir.
Ça a été difficile de t'avoir.
Eh ouais, je suis super sollicité.
Comment ça se fait?
Bah alors, je vais te donner les raisons qui sont très simples. La première, c'est que je suis sollicité dans le monde de l'humour et ça, c'est génial.
Ça, c'est
la
cool.
Deuxième, c'est que j'ai un autre taf, un vrai taf à 100%.
On va en parler.
Ouais, on va en parler. Et la troisième, c'est que j'ai encore un autre taf qui est père de famille.
Wow.
Donc voilà, gérer un calendrier comme ça, c'est chaud. Donc,
incroyable.
Voilà. Mais je suis là, j'ai réussi à le faire, franchement.
Trop bien. Ouais. Ah, félicitations,
bah,
ça faisait
merci.
Un petit moment que je voulais t'avoir dans Talaref. Tu sais quoi, on va commencer par justement ce travail à 100%.
Oui.
Alors, c'est pas dans le milieu de l'humour.
C'est pas dans le milieu de l'humour,
mais
pas du tout.
Il se pourrait que tu aies quand même parfois un micro dans la main.
Alors, j'ai un micro dans la main, effectivement. Alors, je travaille dans l'aérien. Moi, je suis chef de cabine à la base
pour
une compagnie basée ici à Genève.
OK.
Et voilà, moi, je voyage. Je ne vais pas donner le nom de la compagnie pour faire de la pub, mais voilà, il n'y en a pas 50 000 non plus. Et voilà.
On peut parler un peu d'aviation. Mon père est capitaine.
Oh, excusez-moi, pardon, ça, je ne savais pas.
C'est ouais,
la première
mec.
Et pour quelle compagnie, du coup
Pas la même.
Pas la même que moi, mais c'est laquelle du coup?
Bah alors du coup, on cherche, mais aussi basé.
Oui, voilà. Ok, je vois.
Donc voilà. Mais toi, du coup, ça veut dire que tu rentres pas tous les jours à la maison quand tu travailles?
Non, pas tous les jours. Non.
Ok.
Non, des fois, je dors un peu ailleurs. Ouais.
Ok. Ouais. Worldwide,
mais pas vraiment worldwide. Je suis Londres, New York de temps en temps.
Ok. Puis,
voilà.
Trop bien.
Ouais, c'est, ouais.
Et c'est stylé de pouvoir voyager comme ça?
C'est
ou...
stylé. C'est la raison principale pour laquelle j'ai fait,
c'est vrai
je fais ce taf. Bah oui, pas l'amour des gens dans l'avion, c'est vraiment voyager. Mais ça, tu peux pas le dire à l'entretien. Ouais, c'est pour
bah
avoir
non.
Les billets pas chers. Non, mais vraiment, c'est la
c'est
raison
stylé.
Principale.
Ah,
c'est,
okay.
stylé. C'est stylé.
Et quand tu arrives dans des destinations, tu restes longtemps sur place ou...
Non, longtemps, c'est relatif. Mais genre New York, c'est une journée. Quoi. Mais
ouais.
Ça va, ça suffit. T'es à Manhattan, tu kiffes une journée, tu rentres, tu vois des SDF, ça sent la weed. Puis tu rentres chez toi. Ça suffit une journée.
C'est calme ici, hein, finalement.
Franchement, à chaque fois que je vais à l'étranger, je réalise à quel point, et je dis pas ça pour faire genre, mais je réalise à quel point c'est stylé de fou ici en fait.
Ah ouais.
On est calme, les gens sont polis, c'est magnifique franchement. Mais ouais, non, New York, les États-Unis, non merci.
Pas possible.
Ah, non, pas possible.
Mais du coup, c'est pas forcément hyper facile pour une vie de père de famille d'être loin un petit peu comme ça.
Bah non, en fait, ça va ici parce que je voyage pas. Enfin, je ne fais pas des découchés à l'étranger plus que ça. À l'époque, je travaillais pour une autre compagnie où j'étais basé à Dubaï, du coup.
Ah ouais.
Ouais, et là, du coup, c'était charbon. Et c'est pour ça que je suis rentré justement dans la région, pour avoir un peu plus de stabilité.
Mm-hmm.
Donc au final, non, je m'y retrouve bien, ça va. J'arrive à rentrer, voir passer du temps avec les enfants, faire du stand-up. J'ai réussi à trouver un équilibre plutôt sympa.
Et le stand-up, on commence à te voir absolument partout là en ce moment, non?
Alors, je sais pas, je suis sollicité. Et puis, il y a aussi un travail de ma part qui consiste aussi à aller partout, en fait. En fait, je montre ma tronche partout. Et c'est le but du truc, en fait.
Ouais.
Quand j'ai commencé le stand-up ici, j'étais avide de scènes et je trouvais qu'il n'y en avait pas assez ici.
Mm-hmm.
Et même si on avait quelques-unes, bah, on est aussi un certain nombre d'humoristes à vouloir jouer, ce qui est tout à fait légitime. Et du coup, j'étais vraiment, j'avais la dalle de scène, quoi.
Ouais.
Et du coup, j'ai commencé à m'exporter un petit peu sur Lyon, où il y avait un peu plus de scènes.
Ouais.
Et de fil en aiguille, ça ne me suffisait pas. J'ai dit non, il faut que j'aille ailleurs. Puis après, Marseille. Bordeaux, Paris, où c'est vraiment la guerre, mais du coup Paris aussi, et puis voilà quoi.
On a eu l'occasion d'en parler dernièrement justement de Paris. Raconte-nous à quel point c'est un peu la guerre justement.
Alors c'est une guerre, c'est pas vraiment une guerre, mais en fait il y a énormément de comédie club, puis il n'y a
bien
pas
sûr.
Cette atmosphère qu'on retrouverait dans une ville comme Genève par exemple,
ouais.
Où ici il y a une bonhomie entre les humoristes, il y a vraiment franchement le mot bienveillance pour le coup il est vraiment bien placé, parce qu'entre les humoristes il y a vraiment une entente qui est incroyable, franchement,
ouais.
On est bien. Alors qu'à Paris, quand je dis c'est la guerre, c'est que les humoristes à Paris, pour qui c'est le gagne-pain, ils passent d'un comédie club à un autre. C'est-à-dire qu'on n'a même pas le temps de nouer des liens avec d'autres humoristes. Ils viennent, ils font leur set et il se barre sur un autre plateau, ce qui fait que tu n'as même pas le temps d'échanger, de partager comme on pourrait le faire ici, quoi.
Et donc, c'est vraiment des collègues de boulot, quoi.
Alors, c'est des collègues de taf, ils font le travail. Ils sont... Et du fait qu'ils jouent aussi souvent, ils ont un niveau quand même qu'on peut ressentir. Les gars, ils pratiquent. Quand tu joues 5-6 fois par soir, sincèrement, au bout d'un moment, la différence, elle va se faire. Si tu es un joueur sur le banc de touche ou un joueur sur le terrain, tu vas voir la différence. Le mec sur le banc de touche, s'il ne joue pas pendant 3 mois, tu le remets, il se fait un claquage très rapidement. Tu vois.
Ouais,
Alors que quand tu enchaînes, les gars sont forts. Mais du coup, pour moi, qui vis ça côté humoriste, il n'y a pas ce truc que j'ai, avec lequel j'ai vraiment développé le stand-up ici, où tu as tout un panel d'artistes qui sont bienveillants, on est bien. Et puis même les Parisiens, quand tu vas les voir à Paris, tu leur dis que tu viens de Genève, ils disent « Ah, j'étais à Genève, c'est incroyable, c'est génial, oh les humoristes !» Même eux, ils ressentent ça comme ça, ou c'est pas du tout la même ambiance. Mais bon, après, faut apprendre à jouer, à composer avec les règles du jeu, hein, c'est comme ça.
Hein. Ouais. Trop bien. Pardon, j'ai complètement oublié de te poser une question vis-à-vis de l'aviation. Est-ce que du coup, en tant que chef de cabine, c'est toi qui fais les annonces du début ?
Je fais les annonces, effectivement.
Dans toutes les langues, du coup.
Enfin, alors
du coup,
anglais, français, c'est tout, ça s'arrête
et
là.
Et petite blague des fois ou pas ?
Jamais de la vie. Je ferai des blagues, non, c'est tellement dur. Mais jamais, au micro comme ça.
Jamais.
Non, on fait pas de blagues. Parce que je pars du principe qu'il n'y a pas tout le monde dans un avion qui a envie de rigoler. Faut oublier qu'il y a
des blagounettes.
Les blagounettes, je les fais en one and one comme ça, machin, mais je les ferai pas au micro parce que faut pas oublier qu'on a on a un panel de gens qui sont pas forcément venus pour blaguer. Il y a des gens qui sont. Puis je travaille pour une compagnie sérieuse et il y a des gens dans l'avion, ils sont pas sensibles à l'humour. Il y a des gens, ils ont peur de l'avion. Il y a des gens. Donc ils veulent.
Ouais, donc c'est
surtout ici en
ville,
ils veulent. Ouais, le cadre s'y prête pas. Plus en plus, si je commence à faire ça dès le début, moi je dois avoir de l'autorité à bord. Si je fais ça dès le début, ah, c'est bon, c'est un déconneur le mec. Moi, je suis chef de cabine en plus. Ouais. Donc, du coup, je dois maîtriser cette autorité à bord. Donc après, si l'occasion se présente en one-on-one, bien sûr, j'utilise cet atout, mais genre au micro, jamais de la vie. Impossible.
Ok. Parce que je te raconte ça parce que mon père, quand il y a l'Euro ou la Coupe du Monde, il fait des live scores au micro et
ça,
tout.
Ça, c'est la base. Alors, ça, c'est
même pas. Ça, c'est pas de la.
Ça, c'est la base. Surtout si t'as la Suisse qui joue. Je travaille en Suisse. Je fais la Suisse en train de se faire laminer 2-0, les amis. Je balance une petite ambiance. Là, tu vois les visages se décomposer. Non, franchement, ça, c'est même pas de l'humour. Ça, c'est vraiment. Ça fait plaisir aux gens. Ça les régale. Ouais, ouais. Mais si je commence à faire des vannes, tu vois, sur l'aérien, machin, sur la sécurité, tout ça, c'est fini.
Ah oui, non, mais d'accord. Okay. Ouais. Non mais dans le sens où tu as une certaine petite liberté pour
j'ai une liberté
discuter.
Ouais. Mais pour avoir fait ça pendant 15 ans, je me dis que si je leur donne matière à, c'est fini. Franchement, je peux pas. Ouais, okay. Je suis vraiment obligé de garder l'autorité à bord, quoi. Alors je me fais violence parce que des fois il y a des dingueries qui me passent par la tête. Je me dis là, si je fais ça, ça va être magnifique. Mais je le fais pas parce que voilà, je dois ça. Puis j'ai mes collègues aussi à bord qui
sont
pas.
Bien sûr.
En fait, il y a pas tout le monde qui est sensible, sensible à l'humour en fait. Donc faut faire attention.
C'est dur, je pense, d'avoir.
Si on est dans ma tête, il se passe des dingueries. Dans ma tête, là, on est 15. Dans ma tête, j'ai même pas d'uniforme. Dans ma tête, je suis bien. Mais on n'est pas dans ma tête.
Voilà, je voulais faire cette petite aparté parce que je t'imaginais en train de te torturer.
Ah ouais, mais tout le monde, non, on est bien.
Dernièrement, du coup, on te voit un petit peu partout. Le Jamel Comedy Club, mec.
Oui.
T'as fait la première partie ici au théâtre du Léman.
Oui.
J'ai des compliments à te faire.
Ah ben, je les prends.
J'ai un très bon ami qui était dans la salle qui dit oh, alors la première partie était top. Et
bah, ça fait plaisir, ça.
Et puis, t'es allé à Paris.
Ouais.
Jouer là-bas, c'était comment ?
Alors j'ai fait ce qu'on appelle la Deb Jam, c'est-à-dire que c'est une scène qui a lieu tous les mardis au Jamel Comedy Club pour les humoristes qui débutent, Deb Jam. Et non, c'était incroyable, la salle elle est juste incroyable.
C'est vrai ?
Moi j'ai toujours rêvé d'aller jouer là-bas, quoi.
Bien sûr.
Mais c'est compliqué parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, Paris c'est un vivier d'humoristes incroyable et tout le monde veut jouer là-bas du coup.
Bien sûr.
Et c'est très compliqué pour le programmateur du coup de...
Comment ça se passe, le programmateur, il y a une liste d'attente de 6 mois,
alors,
un an
il y a une liste d'attente, puis il faut, en fait, moi je pense que dans ce milieu-là, il faut qu'on fasse parler de toi, c'est-à-dire que pour prétendre à jouer là-bas, il faut déjà avoir un certain niveau, il faut que les gens aient parlé de toi, il faut que d'autres humoristes t'aient vu, qu'ils parlent de toi, le bouche à oreille, il est indispensable. Mm-hmm. Et malheureusement, aujourd'hui, dans le monde du stand-up, il y a des gens qui veulent tout très vite, très rapidement, et qui veulent aussi tout de suite aller jouer là-bas, alors que moi maintenant, j'ai commencé en 2019 à faire du stand-up, bon, 2020, 2021, on compte pas, c'était dur. Mais voilà, avant de prétendre à jouer là-bas, je veux dire, après un an de stand-up, jamais j'aurais eu j'aurais eu les couilles de me dire, putain, je vais aller me présenter au Jamel Comedy Club, je vais aller jouer. Parce qu'en fait, quelque part, ce que les gens savent pas, c'est que si tu vas là-bas et que tu bides, ou que tu fais un passage dégueulasse, ou que t'as pas un passage travaillé, tu vas te pénaliser de fou.
Ouais,
tu vas pénaliser aussi d'autres humoristes derrière qui, eux, auront bossé et machin. Et en fait, il y a ce travail de jugeote, de jugement que les gens n'ont pas, en fait. Mm-hmm. Et franchement, c'est compliqué pour les programmateurs. C'est pour ça que tout à l'heure, on en parlait, je pourrais jamais programmer, c'est pas possible, en fait.
Ouais. Parce en tant qu'organisateur, toi, tu te verrais pas.
Non, je me verrais pas en tant qu'organisateur parce que il faut une certaine froideur. Quelque part, il faut pouvoir dire aux gens qui ont bossé, voilà, t'as bossé, ton travail est carré. Puis les gens qui ont moins bossé, faut pouvoir leur dire, malheureusement, il y a des gens, quand tu leur fais une remarque ou un feedback, c'est très dur. Et moi, j'aurais ce problème-là où j'ai peut-être un peu trop de franchise à dire, ben non, ben là, c'est pas bossé, t'as pas bossé, puis je vais passer pour un enfoiré, puis machin, c'est ça. Donc, je préfère être neutre, faire ce que j'ai à faire, et voilà quoi.
Et mais, kiffer.
Moi, je veux juste kiffer. Moi, je veux. Mon objectif, c'est de kiffer, faire kiffer les gens. Il y a pas de. Ça s'arrête là, quoi. Vraiment, c'est un pur kiff, quoi.
Et mine de rien, même si ça fait depuis 2019 que tu as commencé le stand-up, tu as déjà un spectacle.
Bah, déjà, oui.
Ah, t'as un spectacle.
Ouais, j'ai un spectacle.
C'est trop cool.
Ouais, ouais, franchement. Mais c'est
qui s'appelle Perception.
C'est ça, exactement.
Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu?
Bah, je l'ai appelé Perception, mon spectacle, parce que on voit pas les choses de la même manière. Voilà, okay. Tout simplement. Donc, moi, à partir de mon vécu, je veux décrire des choses. À un moment donné, je parle par exemple du Maroc. Voilà, bon, bah, c'est mes origines. Mm-hmm. Et à chaque fois, je fais la comparaison entre. Parce que les gens, quand je leur dis que je partais tous les ans au Maroc, forcément, oh, stylé. Mais je précise aux gens que leur Maroc à eux, c'est pas mon Maroc à moi.
Ouais.
Et du coup, sur plein de choses comme ça, je m'amuse à partager pareil par rapport à mon métier de dans l'aérien, mmh. où les gens ont une vision de ce métier-là, mais moi qui suis de l'intérieur, je leur apporte ma vision à moi. Et en fait, tout le long du spectacle, en fait, c'est un échange comme ça par rapport aux perceptions, aux visions qu'on a sur certains points de la vie. J'ai essayé de regrouper un maximum de thèmes qui parlent à un maximum de gens. En fait, j'ai envie d'en faire un spectacle populaire, donc voilà.
En termes de date, je sais qu'on a le 15 et 16 mars du côté de Carouge.
C'est ça, au Caustic Comedy Club.
Qu'on ne présente plus.
Non.
Et avant ça, on est du côté de Neuchâtel.
Neuchâtel, le 21 février, ce sera l'Underbock.
Okay.
Donc voilà, pareil, salle incroyable qui se remplit déjà pas mal. Donc ouais, je suis plutôt content.
Trop bien.
Ouais, on va passer un bon moment.
Et t'as commencé tu l'as finalisé quand, ce spectacle? T'as commencé à le jouer
Alors, c'est marrant parce que le spectacle, j'avais une ébauche de spectacle. Puis, donc, je jouais au Caustic Comedy Club sur un plateau. Puis, vraiment, dans une conversation anodine, je parlais avec les filles du Caustic, avec les tenantes du Caustic. Puis, je leur dis, ouais, voilà, je suis en train de bosser. Là, je commence à avoir pas mal de matériel et tout. Donc, et j'aimerais que vous sachiez que si j'ai un spectacle un jour, c'est ici que j'aimerais le jouer pour la première fois.
Ouais.
Donc, vraiment, c'était une conversation anodine. Puis, il y avait pas vraiment, c'était vraiment officieux, quoi. Et je reçois un message WhatsApp, je crois une ou deux semaines plus tard, qui me dit, voilà, on peut te proposer telle et telle date pour le spectacle. Je fais, oh,
alors
okay.
Que toi, c'était genre juste, ouais, bien sûr.
Mais ça m'a laissé un 6 mois pour vraiment, parce que j'avais du matériel qui était un petit peu comme ça, balancé et tout, mais j'avais pas vraiment une trame qui puisse vraiment constituer une heure de spectacle.
Mm-hmm.
Mais du coup, moi, ça m'a mis une deadline, ça m'a mis un coup de pied au cul. Je me dis, ouais, voilà, ça y est, on est obligé d'y aller à un moment donné, t'y vas, quoi.
Ouais.
Et du coup, j'ai regroupé tous mes sketchs, j'ai essayé de créer un ordre qui avait du sens, et puis le fait d'avoir cette date-là au Caustic en plus. Donc, j'ai joué en octobre l'année dernière, et c'était incroyable.
Trop bien.
Et je dis, en fait, je pense, dans la vie, il faut une deadline. Il faut que tu aies une échéance. Si tu n'as pas l'échéance, t'avances pas.
C'est foutu.
Donc, je les remercierai jamais. C'est pour ça, c'était
trop stylé.
Franchement, c'était incroyable. Ouais, ouais.
Trop bien. Donc, c'était la première en octobre.
C'est ça.
Tu as eu l'occasion de le rejouer depuis?
Alors, je l'ai rejoué à Lyon, je l'ai rejoué à Lausanne. Bien. D'ailleurs, je le rejoue encore à Lausanne en avril. Non, franchement.
T'as déjà la date?
Alors, j'ai la date. Alors, deux secondes, je vais sortir mon téléphone.
Parce que ici, on note tout là.
Mais c'est incroyable. Regardez bien. C'est par là que ça se passe. Je sais pas où je dois regarder.
C'est comme la météo.
Alors attends, la date. Ah voilà, ce sera le 11 avril.
Le 11 avril.
Au Comedy Club 13 à Lausanne. Ouais.
Trop bien.
Ouais.
Belle salle également.
C'est une très belle salle.
Pour faire du stand-up. Ça, c'est trop cool. Je le demande à absolument toutes les personnes qui passent dans cette émission. Depuis 2019, j'imagine que tu as déjà eu des mauvaises expériences sur scène. Est-ce que tu veux, et tu as en tête une anecdote d'un immense bide ou d'un moment qui était vraiment absolument
J'avais plusieurs. Oh, je dois bien trouver ça quelque part. Non, j'ai cartonné tout le temps, je suis désolé mec, je suis un mec qui a du succès. Non.
Moi j'ai des J'ai entendu parler de certaines choses.
Je sais pas de quoi t'as entendu parler, mais des bides. Bon, moi le bide incroyable, mais je sais pas si on peut parler de bide parce que j'ai joué dans un endroit où les gens qui étaient venus ne savaient pas qu'il y aurait du stand-up.
D'accord.
Pire info, c'est genre coucou la surprise, tu vois.
Ok.
Et là récemment, j'entends les rires derrière de mon confrère qui sait très bien de quoi je vais parler.
Très bien. Moi j'ai rien dit. Hein,
non, 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 mais vas-y. Tu sais.
Je pense qu'on est sur la même longueur.
On était tous ensemble. On était sur un événement un peu privé où genre nous les humoristes on était la surprise de la soirée.
Okay.
Voilà. Bon ben les gens ils s'attendaient vraiment à une surprise. En plus ils étaient bien bourrés de ça, donc ils se disaient c'est bon, ça va être des stripteaseuses, gogo dancers. Puis là, il voit deux Arabes et un Suisse qui fait coucou, fait des blagues.
C'était un peu rural, non?
Ah, c'était rural. C'était, c'était un colloque d'agriculteurs entre 25 et 35 ans. Okay. Et nous, on arrivait au moment de la soirée où ils étaient dans leur
arraché.
Élément, donc alcoolisés.
Ouais.
Et franchement, et t'as la nana qui dit non, mais je vais là. Donc l'organisatrice dit non, mais je vais leur expliquer, je vais leur présenter, et puis ils seront bien, quoi. Donc les conditions de jeu, elles étaient c'était
terrible.
Incroyable. C'était dur, c'était terrible. Franchement, c'était dur. Mais nous, en tant que pro, on a fait le taf jusqu'au bout. On
bien.
A souffert psychologiquement. On est rentré, on a insulté des darons, mais.
Incroyable.
Non, c'était dur. En plus, moi, je passe en premier. Je fais un truc avec un. Je fais à un moment donné, je fais un jeu avec le public où je fais des phrases à trous comme ça, cool. Puis à un moment donné, je balance une phrase où je parle d'Annemasse justement. Puis je dis Annemasse, c'est une ville de. Et en général, la plupart des gens, en général, donc à 100% du temps, vraiment 100% du temps, les gens disent merde. Tu vois, c'est pas grave, on assume. Tu vois, bon, ouais, c'est pas grave. Mais ce jour-là. Il y a un mec qui crie haut et fort Bougnoul. Je fais oh le bâtard. Et moi je passe en premier pour de vrai.
Non.
Si, pour de vrai. Ouais, il est mort de rire. Si, pour de vrai. Le mec dit Bougnoul. Moi je suis pris au dépourvu. Je fais mais non.
Sur Annemasse, c'est une ville.
Annemasse, c'est une ville de. Puis il a dit Bougnoul.
Je
fais oh, il a dit Bougnoul. Je fais l'enfoiré. Et moi j'étais tellement pas prêt. Je fais normalement mon sketch c'est pas. Et là, mentalement, il faut se dire, bon, je passe en premier. C'est soit je fais le mec un peu vénère, puis je lui rentre dedans, puis je nique l'ambiance pour tout le monde.
Ouais.
Soit je reste pro, je reste carré. Donc après, franchement, j'ai réussi à rebondir ce soir-là parce que j'ai pas réussi à trouver le mec déjà. Bon, c'est le genre de mec en anonyme sur Instagram qui balance des messages de haters. Donc je dis, mais t'es où? Puis je vois plus rien. Je fais, ah, il a disparu. Ouais. Je fais, ok, elle est toute petite couille. et après, je continue mon truc de phrase à trous. Je fais, c'est pas grave, où que tu sois, sache. Que tous ensemble ici, on aimerait te le dire, va bien te faire. Et là, t'as tout le public qui dit enculé.
Ah,
et là, je dis oui,
j'ai
réussi. Mais tu sors, t'as quand même un peu le seum. Mais,
bah ouais.
Mais c'est comme ça, c'est faut rebondir, faut s'adapter. Mm-hmm. Tu peux pas.
Du coup, tu as fait ton sketch sur le Maroc après?
Ah non. Oh, non bah, là, tu te doutes bien, j'avais pas leur donné du grain à moudre. Ça va pas quoi? Eh, vous avez quoi? Marchand de tapis. Non, ça va. Non, après, je suis parti, je suis allé taper contre un mur, tout simplement. Je suis allé me niquer les phalanges.
Incroyable.
Mais c'est le stand-up. Des fois, tu joues devant un public qui est averti, qui connaît les codes.
Ouais.
Et quand tu fais du stand-up devant un colloque d'agriculteurs de 25-35 ans, tu te doutes bien qu'ils ne passent pas tout leur samedi dans un comedy club.
Non,
ils ne connaissent pas, ils n'ont pas les codes. Ils étaient méchés. Donc, nous aussi, notre taf en tant qu'humoriste, c'est de rebondir. Et puis maintenant, du coup, j'en fais une anecdote que je raconte sur scène et qui est très marrante. Tu vois.
Et dans cette émission. Et on te remercie de te livrer sur ce moment.
Va, fond, ouais.
Et à contrario, du coup, un moment inoubliable de ta carrière sur scène pour l'instant.
Là, récemment, j'ai eu l'occasion de faire la première partie du Montreux Comedy Festival en novembre, sur le tout dernier gala en plus.
Okay.
Et qu'on me donne cette chance à moi qui débute dans le stand-up, c'était juste incroyable. Franchement,
ouais.
L'expérience,
le Montreux,
tout. Ouais, t'es dans un vrai festival d'humour, puis ça y est, je suis crédible, je suis drôle, il y a tout ce bagage qui vient avec, tu dis je suis drôle et tout. Et puis voilà, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur les réseaux sociaux, parce que ça va passer normalement sur les réseaux sociaux.
Okay, trop
mais
bien.
Rien que le fait d'avoir pu vivre ça du haut de.
Ouais.
En plus, c'est moi qui ne fais pas ça de manière complète, j'ai un taf à côté et tout.
Bien sûr.
C'était vraiment c'était une chance incroyable. Donc,
trop stylé.
Ouais, incroyable.
Parce que tu as beau faire des fois dans des bars ou des comédie clubs où ça se passe extrêmement bien, mais le côté festival d'humour, ça rajoute un truc.
Tu rentres dans le monde des pros, quoi. En
ouais,
fait, hein, tu te dis, j'ai un petit pied dedans dans le monde des pros. On me considère vraiment comme quelqu'un qui potentiellement peut aller loin. Et moi, rien qu'on puisse me donner m'apporter cette idée-là, que des professionnels du métier me donnent cette chance-là, en fait, ça me crédibilise. Puis moi, en fait, ça me booste et ça me conforte dans le fait que je dois continuer à faire ça, en fait.
Mm-hmm.
Je me dois de continuer. Je peux pas baisser les bras maintenant. Donc, du coup, ça me force aussi à être plus présent. Mais c'est pour ça que tu me dis, on te voit partout. Je me force à être partout.
Ouais.
Parce que c'est aussi bête, mais c'est aussi un métier dans lequel, si tu disparais pendant un temps donné et que le monde de l'humour te voit plus, tu disparais très rapidement, mm-hmm. en fait. Donc, je me fais un peu violence en me disant, non, il faut que, quand par exemple, je vois un calendrier où je suis pas si sollicité que ça, je me fais violence, je me dis, bah, je suis pas sollicité.
Allez, vas-y, faut que je...
C'est reparti, vraiment, tu ressors ton calendrier, ton truc de contact, et tu dis, ouais, est-ce que je peux jouer là, je peux jouer là. Mm-hmm. Et tu dis, bah, je retourne sur la route, quoi, en fait.
Et comment ça se fait qu'en 2019, tu t'es dit, bah, c'est parti, le stand-up, let's go?
Ben, vu que je travaille dans l'aérien, puis je travaille pour une compagnie aérienne, moi, à chaque fois, je suis avec des nouveaux collègues. À
okay.
chaque fois, je suis avec des nouveaux collègues et tout. Donc, ça fait 15 ans maintenant que je fais ça.
Ouais.
Et à chaque fois, c'est
là, t'as quel âge?
Moi, j'ai 39 ans.
Bientôt, 39, ouais.
En mai, j'aurai 40 ans.
Okay.
Donc, voilà, j'ai ouais. un certain âge. Enfin, dans le jeu. J'arrête, non, mais j'arrive plutôt tardivement dans le, ouais, dans le monde ouais. du stand-up, okay. si on peut dire ça. Et je travaille tout le temps avec des collègues différents,
ouais.
différents trucs. Et puis je travaille chez Emirates, donc je parlais en anglais tout le temps.
Okay.
Et à chaque fois, je faisais rire mes collègues, mais genre à chaque fois. Et
j'étais le marrant de.
J'étais le marrant de ça.
Ouais.
Voilà. Et en plus, en tant que responsable, quoi. Donc j'avais cette responsabilité de cabine. Puis
ouais.
Je faisais rire des gens, quoi.
Ouais.
Donc j'aimais bien lier le travail, puis le plaisir. On rigolait de ça. Puis je sais pas combien de fois il y a des gens autour de moi qui m'ont dit, mec. J'ai jamais autant ri de ma vie. Il faut que tu fasses du stand-up. Il ouais. faut que tu fasses du stand-up. Donc, au final, il y a une graine qui germe dans ton cerveau. Tu dis bon. Puis, il y avait ma situation familiale aussi, des enfants. Je dis non, le timing, c'est pas bon. Stand-up, mm-hmm. ça veut dire bouger, tout ça. Puis, un jour, je me dis si je le fais pas maintenant, je vais vivre avec des regrets, en fait.
Ouais.
Donc, à l'âge de 35 ans, je me suis dit quoi ? Vas-y, tente le truc. Oh. Mais je le tente, mais à fond. C'est pas genre, je le tente un peu. J'ai dit si j'y vais à fond.
Ouais.
Et je pense qu'il faut jamais arriver à un certain moment de sa vie. Genre, moi, j'ai pas envie d'arriver à 50 ans et me dire ah, et tu sais, d'avoir des phrases que tu peux entendre chez des anciens. Ouais, moi, je sais que si j'avais fait ça, j'aurais été bon.
Ouais.
Tu vois,
non,
moi,
ouais,
je vais, c'est... je le fais. Si je suis pas bon, bon, j'ai essayé. au moins, je me suis donné la peine de le faire. Mmh. Et j'y vais, plutôt que de vivre avec des regrets, en fait.
Ouais.
Donc, c'est pour ça que je dis j'ai 40 ans, machin. Enfin, je suis très fier du parcours accompli.
Trop bien.
Et je vis avec zéro regret, pardon.
Ouais.
Et j'encourage vraiment les gens à vivre avec zéro regret. Allez-y à fond, quoi.
Et au moment où justement, tu étais le plus marrant de justement tes collègues, etc., et le moment où tu montes sur scène, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es pris un mur, où tu te disais, oh. ah oui, quand même, c'est pas la même chose que de faire rire des collègues sur scène?
C'est dur. Franchement, c'est dur parce que t'as pas cette spontanéité. En fait, moi déjà, à la base, je faisais pas beaucoup d'interactions avec le public, donc je venais, je déroulais du texte.
Ouais.
Donc, je me rappelle de ma toute première scène, j'avais un public, il était bouillant, c'était au Chat Noir, c'était ici à Genève,
okay.
et j'avais un public bouillant. J'arrive, ça marche, bon, mais c'est facile le stand-up, bro, mais attends, tranquille.
Avec un texte, donc.
J'avais un texte, 100% texte, okay. pas d'interaction, ouais. puis tu vois vraiment que j'étais un texte récité, donc je suis venu, ouais. j'ai débité mon texte.
Mais voilà. Au moins, t'es arrivé avec un texte, t'es pas dit, je suis marrant dans la vie, donc, t'avais écrit.
Bah,
et
oui.
tout.
Okay. Non.
Non, mais parce que tu sais, il y a des gens qui peuvent se dire, ah bah, vu que je suis marrant dans la vie, je peux.
Okay. Franchement, ceux qui font ça pour leur première scène, mais respect infini, quoi. Enfin,
ah oui.
Il y a de très fortes chances que tu vas.
Que tu te plantes.
Bider, mais fort.
Ouais, fort.
Parce que
ouais.
tu peux pas. Même si t'as un crack dans la vie, toujours. En fait, être drôle avec des amis, être drôle sur scène, c'est deux
c'est
exercices
la même chose.
Totalement
ah ouais.
différents. Et je
Donc t'arrives avec du gros du texte.
J'arrive avec
tu
du déballe, texte,
déballe,
ça
déballe,
se passe trop bien. Trop bien. Mais en fait, c'est facile, mais laisse tomber.
Deuxième scène.
Oh, le bide de l'espace, quoi. Le bide, mais pas un seul rire. Les gens, ils ont les bras croisés. Je crois que même à l'Assemblée nationale, ils font plus rire. Les gens, vraiment, j'étais là. Et en plus, c'était la scène où j'avais décidé. Enfin, ma femme était venue me voir ce jour-là. Elle dit ah ouais, t'es drôle, je vais venir voir ce que tu vois. Et elle est venue ce soir. Elle a choisi ce soir-là. Elle a dit c'est maintenant.
La deuxième. Tellement dur.
Et elle te regarde, elle dit c'était bien. Alors que toi, tu sais que c'est de la merde. Je dis écoute, chérie, ils ont pas rigolé. Toi aussi, t'as pas rigolé. Ça sert à rien d'essayer de me conforter, quoi. Et
ouais,
c'était dur.
Trop bien. C'est qui tes influences les plus grandes dans le stand-up?
Alors, pour être sincère, j'ai pas consommé énormément de stand-up.
Avant de te lancer?
En spectacle. Ouais, avant de me lancer, j'aimais bien. Moi, j'aime bien les anciens, tu vois. Moi, je suis team Eli Kaku. Voilà. Donc, j'étais vraiment avec les anciens, les débuts du Jamel Comedy Club. Ça. Et puis, par la suite, j'ai quasiment pas regardé de stand-up, en fait. Mais c'est pas plus mal parce que du coup, ça m'a. J'ai pas été influencé par tel ou tel type d'humour. J'ai essayé d'être moi-même, tu vois.
Okay.
Mais t'as les incontournables. Hein. T'as Gad Elmaleh, t'avais Jamel Debbouze, Eric et Ramzy. C'était vraiment. Mais c'était ça mes rêves, en fait. Ouais.
Humour américain, pas trop.
Humour américain, si. Bah, du coup, quand j'ai commencé à me lancer dedans, j'ai commencé à regarder sur Netflix des spectacles. Ça. Puis t'as des cracks comme Ricky Gervais ou un autre qui est un peu moins connu, mais pourtant qui tabasse aux États-Unis, c'est Sébastien Maniscalco.
Okay.
C'est un immigré d'origine italienne qui parle aussi du coup de cette différence culturelle entre lui qui est d'origine mm-hmm. italienne, puis les Américains, puis il a épousé une Asiatique. Donc je me retrouve pas mal dans ce qu'il raconte et puis il le fait magnifiquement bien. Donc si vous connaissez pas, je vous invite sur Netflix, okay.
Il
y a tous les
épisodes. Il a un special, c'est
ça? Il a 4 specials sur Netflix. C'est-à-dire si tu regardes son premier special, normalement tu bouffes les 3 autres derrière, okay. Parce que le mec est incroyable. Ouais.
Trop stylé. Ouais. Je me posais une question concernant Yacine sur scène.
Oui.
Est-ce que toi, tu prends, j'ai l'impression, énormément de plaisir quand vraiment tu vis l'instant présent.
Ouais.
C'est-à-dire que dans le milieu du stand-up roman, t'es un de ceux qui se marre le plus d'être sur scène. Tu vois ce que je veux dire ou pas?
Oui.
À beaucoup rire, à beaucoup. Tu arrives à vraiment avoir ton texte d'un côté et toi être en train de profiter du moment.
En fait, mon idéal à moi, quand j'ai commencé le stand-up, mon idéal, c'était de me dire qu'il faut que j'arrive à être sur scène comme je suis dans la vraie vie. Donc, je te parlais avec les collègues, tout ça, machin, ça. Donc, c'était mon idéal, c'était mon objectif, c'était de me dire, je veux cette forme d'authenticité où je veux être moi-même, en fait. Et moi, dans la vie de tous les jours, pour ceux qui me côtoient, ils savent que des fois, je fais des vannes qui me font plus rire moi que les autres.
Que les autres,
Et du coup, ça me fait rire moi. Le rire, on sait que c'est communicatif. Les gens, je vais les embarquer avec moi. Même si ma vanne, au final, elle n'est pas si ouf et que moi, dans ma tête, la vanne, elle est incroyable et que pour les gens, elle n'est pas ouf. Mais vu que je vais tellement rire à ça, parce que dans ma tête il se passe des dingueries, les gens vont rire avec moi et il y aura cet effet boule de neige qui va s'engager et on va vraiment passer un bon moment. Et moi c'est ça que je kiffe sur scène, et c'est là maintenant, avant de monter sur scène, je stresse même plus, parce qu'à chaque fois je pars du principe que
tu vas prendre
je
du
vais
plaisir.
Prendre du plaisir, puis je suis venu pour faire kiffer les gens, en fait. Mm-hmm. je me prends pas trop au sérieux quelque part, même si je travaille énormément mes textes, c'est de la remise en question, c'est des textes posés, testés. Je travaille aussi avec ma femme qui me drive sur tous mes vannes. Des fois je suis là, chérie regarde ce que j'ai écrit, c'est de la merde. J'ai la poubelle. Donc, parce que ma femme et moi, on est alignés sur l'humour. Donc, c'est cool. J'ai quelque part un co-auteur officieux, tu vois. Mais sur scène, le fait de rapporter ce truc-là, et quand je compare avec mes premières vidéos que je regardais de l'époque, avec mes premières scènes, où je venais, mais je te débitais un texte en 5G, mon gars, je balançais. Et il n'y avait pas de retour public, quoi.
Enfin,
où il y avait un retour des petits haha, des petits trucs. Et petit à petit, au fur et à mesure où quelque part je suis moi-même, le public le ressent aussi. Puis il y a ce truc qui se crée.
Tu te poses un peu plus. Et puis,
tu te poses, puis après, je parle très vite. J'ai un débit, je le sais, j'en suis conscient. Puis il y en a qui me disent, ouais, mais il faut que tu travailles, c'est un peu trop rapide et tout. Je dis, mais justement.
J'ai
envie d'être moi-même, c'est moi-même, tu vois. Donc j'ai pas envie à partir du moment où je pense qu'il y a un truc qui est trop calculé, il y en a qui le font très très bien. Il y a des humoristes qui sont forts, chaque truc, chaque silence est pesé, chronométré, ça. Puis t'as des gens comme moi qui naïvement espèrent juste apporter leur personnalité sur scène, pardon. J'écris mes textes, donc j'ai ma trame. Mais derrière, on peut très vite sortir de cette trame, partir dans d'autres choses. Et c'est ce qui rend le spectacle vivant. Donc voilà.
Trop bien.
Merci beaucoup.
En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On le rappelle, il y a ton spectacle qui s'appelle Perception, qui va un petit peu tourner.
Ouais.
On l'espère que tu vas pouvoir tourner avec le plus longtemps possible. Je le rappelle, le 15-16 mars, du côté du Caustic Comedy Club à Carouge. Avant ça, en février...
Ce sera le 21 février, à Neuchâtel.
Neuchâtel.
À Linderbock.
Et puis du côté du Comédie 13 aussi. Bref, il y a là. Nous, on est dans notre discussion, mais il y a là. En tous les cas, allez le voir. Franchement, ça vaut la peine. Merci d'être venu.
Merci à toi.
Vous retrouvez évidemment tous les épisodes de Talaref sur carac.tv. Et puis encore une nouvelle fois, merci au bar Le Winwood qui nous accueillait aujourd'hui pour un nouvel épisode de Talaref. Ciao, ciao.